Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. C'est un coup d'envoi très médiatique et très symbolique auquel nous avons assisté hier, celui de la vaccination. Ça y est, enfin les premières injections en France, alors que la planète commence à s'inquiéter de la mutation du virus et que l'hypothèse d'un nouveau confinement n'est plus tabou. Autant dire que j'aurai beaucoup de questions à poser à mon invité, l'immunologue Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. C'est lui le monsieur vaccin du gouvernement et il sera avec nous à 18h20. La politique agit aussi l'actualité avec ce déjeuner secret entre Marion Maréchal Le Pen et un conseiller d'Emmanuel Macron. Bruno Roger Petit voulait, semble-t-il, la sonder sur la présidentielle. La majorité crie au scandale. On en parlera tout à l'heure avec les grandes voix à partir de 18h30. Et puis entre 19h et 20h, on s'intéressera à ces Français, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, qui ont des envies de reconversion professionnelle. La crise que nous vivons et les confinements successifs vous ont amené peut-être à envisager différemment votre travail, à trouver davantage de sens. On verra que certains opèrent des changements radicaux. Quelle incidence dans le monde du travail d'après ? On en débattra avec mes invités et ça vous donnera peut-être d'ailleurs des idées. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Chloé Triomphe. Bonsoir Chloé.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Il ne peut pas y avoir les premiers vaccins en Île-de-France et que notre campagne de vaccination ne commence que dans 8 jours. Nous souhaitons qu'elle commence tout de suite.
L'appel de Christian Estrosi, maire de Nice, pour une vaccination rapide dans la ville et dans son département, particulièrement touché par la circulation du virus.
Les Alpes-Maritimes déplorent en effet un taux d'incidence deux fois plus élevé que la moyenne nationale.
Le démarrage version diesel de la campagne de vaccination dans l'Hexagone, la France est au ralenti par rapport à certains de ses voisins européens. Pourquoi ce choix ? Explication dans ce journal.
Demain, nouveau conseil de défense sanitaire. Que faut-il en attendre ? Alors que les chiffres des contaminations post-Noël ne sont pas encore connus, les consultations vont bon train.
Et puis l'hommage national aux trois gendarmes tués cette semaine par un forcené surarmé à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme a eu lieu cet après-midi. Chaque mission a son lot d'incertitudes, a rappelé le ministre Gérald Darmanin.
À Marseille, ce sont 900 tonnes de déchets qui jonchent les rues de la ville. Malgré un arrêté de réquisition du personnel, le mouvement des éboueurs se poursuit pour le 12e jour d'affilée.
Laurent Cabrol, vous avez annoncé de la neige aujourd'hui avec les suites de la tempête Bella, coupure d'électricité, conditions de circulation. On fera un point dans le journal.
Et puis c'est une affiche de compète hein, ce soir. Pour le handball, les Parisiens vont tenter de conquérir leur premier titre en Ligue des champion face au favori, le Barça.
La Bourse de Paris, elle clôture en forte hausse ce soir à plus 1,20% à 5588 points.
La météo, on vous retrouve Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Et un temps agité encore demain.
Oui, avec encore beaucoup d'averses tout au long de la journée. Demain, de la neige en montagne et des températures hivernales. Je vous donne tous les détails à la fin du journal et nous avons actuellement 10 départements placés en vigilance orange.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est maintenant qu'il faut vacciner et pas dans 8 jours. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est particulièrement inquiet de la reprise épidémique dans les Alpes-Maritimes où le taux d'incidence est plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale.
Et oui, département frontalier, on le rappelle avec Monaco et avec l'Italie où les règles sanitaires ne sont pas les mêmes. Alors Christian Estrosi a donné une conférence de presse en visio tout à l'heure pour réclamer une mise en place plus rapide de la campagne de vaccination.
Il ne peut pas y avoir les premiers vaccins dans quelques lieux expérimentaux en Île-de-France et que nous soyons considérés comme un département où il pourrait y avoir un afflux supplémentaire rapide et que notre campagne de vaccination ne commence que dans 8 jours. Nous souhaitons qu'elle commence tout de suite. Donc, c'est un entretien que j'ai eu avec le ministre hier qui, d'entrée de jeu dans mon échange avec lui, n'avait pas écarté de nous consentir de lancer la campagne de vaccination pour que celle-ci puisse débuter au plus vite.
Christian Estrosi avec Stéphane Frangy et comme le maire de Nice, d'autres élus réclament des mesures parfois. Il s'agit de reconfinement comme dans l'Est de la France, particulièrement sous tension.
Depuis hier, vous le savez, les premières doses de vaccins sont administrées en région parisienne et à Dijon hier. Aujourd'hui, c'était à Lille ou encore en Indre-et-Loire, dans un EHPAD où 10 résidents ont été vaccinés tout à l'heure.
Alors l'objectif du gouvernement, c'est de vacciner d'ici à la fin février 1 million de personnes âgées et de personnes vulnérables, qu'elles soient particuliers ou soignants. 7000 EHPAD sont concernés. Cela semble très lent comme démarrage au regard de certains de nos voisins comme la Grande-Bretagne qui en est déjà à 800 000 injections. Alors expliquez-nous, Victor Dolande, pourquoi ce rythme à la française ?
Alors il faut écarter tout de suite l'argument de la logistique. Elle est la même pour tous les pays d'Europe qui ont commencé leur campagne de vaccination ce week-end. On le sait, hein, c'est compliqué, la nécessité de garder les doses à moins 80 degrés dans des super congélateurs et de faire ensuite la liaison avec les EHPAD. Mais la France est équipée, le circuit d'acheminement a même été testé la semaine dernière à Blans. Une des explications pour ce démarrage prudent est plus à rechercher du côté du consentement. La France est en effet le seul pays à recueillir par écrit ou par oral le consentement des résidents d'EHPAD avant la vaccination de manière aussi stricte et parfois ça prend du temps, surtout quand les résidents sont placés sous tutelle. Pour Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie à l'hôpital Henri Mondeur de Créteil, cette prudence est nécessaire dans un pays où la défiance vaccinale est aussi forte.
C'est le pays au monde où cette défiance est importante. Il ne s'agit pas de braquer la population contre un vaccin que l'on estime comme étant très important. Donc il est important pour la communauté scientifique et sans doute également pour le gouvernement que les choses se fassent dans les meilleures conditions possibles et qu'on n'ait pas l'impression qu'on vaccine les gens contre leur volonté.
Un chiffre pour bien se rendre compte de cet isolement français par rapport à l'acceptation vaccinale. En Grande-Bretagne, 90% des jeunes filles sont vaccinées contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus. En France, c'est moins de 20%. Donc il ne faudra pas s'étonner des chiffres très faibles de la vaccination en France dans les prochaines semaines. Forcément, recul par rapport à certains de nos voisins. Pour bien réussir cette campagne, il est urgent de ne pas se presser, me confie un autre spécialiste des vaccins tout à l'heure.
Explication signée Victor Dolande et puis un chiffre complémentaire aussi à retenir sur cette question de la vaccination. La population française fait partie des plus sceptiques de l'Union avec pas moins de 56% de Français, donc plus de la moitié des Français, qui dit ne pas souhaiter se faire vacciner contre le Covid-19.
Et un conseil de défense sanitaire aura bien lieu demain, on l'a appris ce matin.
La période des fêtes n'est pas encore terminée, on ne connaîtra les chiffres de contamination relatifs à cette période à haut risque que d'ici une dizaine de jours. Alors, que faut-il attendre de ce conseil de défense ? C'est peut-être trop tôt pour des annonces, mais en tout cas, Adrien Beck, cela répond à une inquiétude d'une partie des élus, notamment du Grand Est.
Oui, inquiétude qui remonte d'ailleurs jusqu'au sommet de l'État. Circulation du virus qui augmente dans les Ardennes, en Meurthe-et-Moselle, pour ne citer que ces deux départements, mais aussi du côté de Nice. Ces dernières heures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est donc entretenu par téléphone avec plusieurs élus du Grand Est. Jean Castex devrait faire de même. Alors, est-ce que ça préfigure des reconfinements locaux ? Eh bien, l'hypothèse est sur la table du gouvernement, d'autant que cette fois, certains élus le demandent publiquement avant même de voir le très redouté effet Noël, hein, ce rebond du nombre de contaminations qui n'est pas encore mesurable. Mais Emmanuel Macron, demain, devrait se faire présenter les premières modélisations en vue du 7 janvier. Vous savez, c'est à cette date que doit être réévaluée une réouverture des théâtres, des cinémas, l'assouplissement du télétravail. Et là-dessus, on n'est pas sur la bonne trajectoire, confie un proche du Premier ministre. Ce sera sans doute aussi l'un des objets de ce Conseil de défense, préparer les esprits un mois de janvier, pas forcément aussi optimiste qu'espéré.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et puis côté coulisses, un déjeuner privé a mis hors de plusieurs membres de la majorité. Un déjeuner discret datant du mois d'octobre, révélé hier par Le Monde, entre un conseiller d'Emmanuel Macron et Marion Maréchal Le Pen. Bruno Roger Petit, chargé des questions mémorielles à l'Élysée, a en effet rencontré l'ancienne députée du Rassemblement National, alors pas de motif officiel. Mais cette révélation a suscité un trouble certain parmi des macronistes qui estiment qu'on ne discute pas avec le Front National.
Et on y reviendra, Chloé, tout à l'heure avec les grandes voix d'Europe 1 à partir de 18h30. Il est 18h08, la suite de votre journal est l'hommage aux trois gendarmes tués mardi par un forcené dans le Puy-de-Dôme. Cet hommage a eu lieu cet après-midi en présence du ministre de l'Intérieur.
Les trois vies sacrifiées pour en sauver une, a déclaré Gérald Darmanin, qui a rappelé qu'il n'y avait pas de plus noble sacrifice que celui-là. La cérémonie s'est déroulée en petit comité à cause de la pandémie, mais une partie de la population d'Ambert avait tenu à être présente devant un écran géant. Les commerçants avaient également tiré leur rideau, un soutien populaire qui a fait chaud au cœur à la grande famille de la gendarmerie, comme en témoigne sa porte-parole, Maddy Scherer, qui était sur place.
Nos trois camarades étaient extrêmement bien intégrés sur le territoire et chacune des personnes que nous avons pu rencontrer, généralement, nous ont fait beaucoup d'éloges en fait et partagé la tristesse de leur disparition. C'est l'occasion pour pour la famille gendarmerie de se réunir, de faire corps. Quand on est militaire, l'esprit corps, c'est quelque chose de très important. Le collectif, ça a beaucoup de sens. Et aujourd'hui, c'était vraiment important qu'on soit tous réunis et que l'on puisse ensemble rendre le meilleur hommage, parler avec fierté de l'action et de l'engagement de nos camarades. Et en même temps, je ne peux que vous dire qu'on avait tous le cœur serré en voyant passer, bien évidemment, les cercueils de nos trois camarades et en regardant à nos côtés leurs familles éprouvées.
Maddy Scherer, porte-parole de la gendarmerie. Les trois gendarmes tués ont été décorés à titre posthume par les deux ministres de l'Intérieur et des Armées. Et l'adjudant-chef qui commande le peloton de gendarmerie d'Ambert, qui avait été légèrement blessé, a quant à lui reçu la Légion d'honneur.
À Marseille, les rues sont jonchées de déchets depuis maintenant 12 jours. Les salariés de l'entreprise de ramassage des ordures de Richebourg sont en grève.
Et visiblement, le passage du Père Noël n'a pas apporté de bonnes nouvelles concernant les négociations pour apaiser leur colère. Ils accusent leur patron de harcèlement. Résultat, près de 900 tonnes d'ordures ne sont pas ramassées depuis plus d'une semaine dans plusieurs quartiers, Stéphane Frangy.
Et ce sont des déchets qui continuent de s'empiler, de déborder sur la voie publique en conséquence dans les quartiers nord, dans le deuxième arrondissement, c'est-à-dire autour du vieux quartier du Panier. Selon une estimation préfectorale depuis le début du conflit, quelques 900 tonnes n'auraient pas été collectées dans ces secteurs. Mais le conflit est peut-être à un tournant. Un arrêté préfectoral a été pris pour réquisitionner des salariés et reprendre la collecte au plus vite, ce que ces derniers entendent toutefois contester, même s'ils peuvent s'exposer à des sanctions. De son côté, la métropole, en attendant une issue, fait installer des bennes pour que, d'ici demain, tous les habitants puissent y jeter leurs poubelles, car il y a une crainte certaine que la colère prenne le dessus du côté des Marseillais et que certains soient tentés de brûler ces entassements d'ordures.
Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1.
La tempête Bella balaye toujours la France avec de fortes rafales de vent et de la neige, et pas uniquement en montagne.
Oui, parce que la neige à Noël, c'est pas forcément original, mais la violence de cette tempête, en revanche, ne passe pas inaperçue. On va faire le point de la situation avec vous, Caroline Baudry. 18 000 foyers sont toujours privés d'électricité.
Oui, et principalement dans le Limousin ou en Auvergne où 4300 foyers sont toujours privés d'électricité. Par exemple, dans le centre de la France, la tempête a frappé fort cette nuit et dans la journée, on le voit sur les images, des villages entiers sont recouverts d'un manteau blanc. Enedis annonce que 1500 agents sont toujours mobilisés sur le terrain, mais le réseau ne sera pas rétabli avant demain. La circulation reste difficile par endroits, comme dans le Cantal, la circulation des TER est perturbée. La Nationale 122 est interdite aux poids lourds et sur la 75, la vitesse est limitée à 70 km/h pour tous les véhicules. La préfecture du Cantal appelle à la prudence. Au moins 40 cm de neige supplémentaire est attendue d'ici demain. À l'ouest de la France, en Loire-Atlantique, une centaine de pompiers ont carrément été mobilisés aujourd'hui après de violentes averses de grêle. Ils ont porté secours à 11 personnes en détresse sur la 82 près de Vannes. 6 blessés légers ont été transportés à l'hôpital. Intervention également des pompiers pour de nombreux dégâts matériels à Saint-Étienne-de-Mer-Morte.
Le point avec Caroline Baudry.
Et on verra comment ça va évoluer dans un instant avec Anissa Haddadi. PSG, Barça, une affiche haut de gamme pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Et attention, on parle de handball.
De handball, tout à fait. Et les Parisiens espèrent arracher leur premier titre de champion d'Europe. Le match de la demi-finale vient de débuter, mais pas sous les meilleurs auspices, car un deuxième joueur parisien a été testé au Covid, Léanique Monnier.
Oui, c'est Toft Hansen qui est lui-même la doublure de la star Nikola Karabatic blessé. Le pivot a été diagnostiqué hier à l'arrivée des joueurs à Cologne, où se tient cette finale à 4. Mais la rencontre a quand même pu débuter. Il faut dire que la compétition avait dû se jouer en juin dernier. Et pour Paris, vous l'avez dit, c'est un enjeu important. Là où Neymar, Mbappé, Ibrahimovic et Beckham ont échoué depuis 10 ans, c'est le PSG Qatari, proche du sacre européen grâce aux petits frères du handball. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain a fait le break et mène 7-5 pour l'instant. Mais attention, on les connaît, les Catalans face au Paris Saint-Germain.
8-5 même
8
maintenant.
5, voilà, le break est bel et bien fait, ce qui permettrait à Paris d'effectuer une jolie petite remontada puisque le Barcelone, pour l'instant, mène dans ses confrontations face à Paris 6-5.
Merci Lénaïque Monnier. Et puis un petit mot de football quand même pour les amateurs du foot anglais. Le choc de la 16e journée du championnat d'Angleterre entre Everton, le 2e, et Manchester City, 6e, prévu aujourd'hui, a été reporté à quelques heures seulement du coup d'envoi parce que des joueurs et des membres de l'encadrement des Citizens ont été testés positifs au nouveau coronavirus.
Et de plus en plus. Merci Chloé Triomphe. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info et à 19h, bien sûr, pour un nouveau journal.
Europe Soir, le 18-20.